Chapitre 29. En temps normal déjà, Vera détestait les nuits de tempête de neige, quand son chalet se transformait en un radeau perdu au milieu d'un océan déchaîné. Et celle-ci ne faisait pas exception à la règle, bien au contraire. Au fur et à mesure, les flocons avaient recouvert les deux vitres, l'isolant plus encore du reste du monde. Puis le vent avait forci. Désormais, les bourrasques heurtaient la porte et faisaient craquer toutes les parois. Heureusement, elle disposait d'une réserve de bûches pour alimenter le poêle sans mettre le nez dehors. Des braises rougeoyantes éclairaient faiblement la pièce, mais suffisamment pour que Vera se déplace sans avoir à allumer la lumière. Il devait être aux alentours de 22 heures. Elle comptait attendre encore un peu pour être certaine que l'autre dorme profondément. Assise à la table, elle patientait avec un troisième verre. Elle s'était promis que ce serait le dernier, sa vigilance s'émoussait. Elle pensait au rôdeur qui avait pris un malin plaisir à observer par la fenêtre, à cette histoire de monstre dont parlait Sophie. Elle aurait donné cher pour pouvoir lire le manuscrit sur lequel elle travaillait actuellement, ne serait-ce que pour constater jusqu'où allaient les coïncidences. Mais la romancière avait embarqué toutes ses affaires dans la chambre, évidemment. Vera revoyait ce titre, en grand au centre de la page, « Les recluses ». Y était-il question d'une femme venue retrouver son ancienne psychiatre dans un chalet isolé au cœur de la forêt pour la prévenir d'un danger? Mais quel danger? Celui matérialisé par les traces de pas dans la neige?
C'est qu'il est déjà là. Il fallait bien que ça arrive,
avait-elle déclaré, effrayée. Vera devait comprendre les véritables motivations de Sophie, notamment en ce qui concernait les prémonitions. Lui démontrer peut-être aussi qu'il n'y avait rien de divinatoire dans ce micmac, car elle refusait d'envisager que sa visiteuse puisse posséder un tel don. Elle refusait également d'envisager ce que ça impliquait, à savoir que l'avenir était, par avance, écrit et inéluctable. Pour se conforter dans ses réflexions, elle avait ouvert le DSM-5 et relu l'intégralité des chapitres traitant de la schizophrénie paranoïde. Ce monde que les malades s'inventaient, leurs hallucinations visuelles et auditives, la certitude, pour certains d'entre eux, d'avoir développé une aptitude ne pouvant être remise en cause. Autant de symptômes notés noir sur blanc qui cadraient exactement avec le profil de Sophie. Elle avait tout construit autour de ses prédictions. Elle était cette magicienne qui avait oublié que, au moment de l'apparition du lapin dans le chapeau, il y avait un truc. Et tous ceux qui essaieraient de la convaincre du contraire, ou qui lui expliqueraient que quelque chose clochait, se trompaient forcément. À moins qu'ils n'appartinssent carrément au complot destiné à lui faire croire qu'elle était folle. Et c'était dans ces cas-là que, se sentant oppressée, elle risquait de devenir dangereuse. Mais quel était le truc, justement? Comment Sophie s'y prenait-elle? Parce que Vera devait bien admettre que ces coïncidences étaient extrêmement troublantes. « Tu ne dois pas douter, » se somma-t-elle. « À tout désordre, il y a une explication et tu vas la trouver. » Il fallait qu'elle se remette à penser comme une psychiatre, chercher et interpréter les signes, tenter d'entrer dans la tête de cette femme et de percer ses secrets si l'occasion se présentait. Vera recula sa chaise au ralenti, veillant à préserver le silence, puis elle se déplaça à pas de loup en évitant les lames qui grinçaient. Elle alla plaquer son oreille sur le battant fermé de la chambre. Pas un bruit. Juste le souffle du vent et le ronflement lointain du générateur. Elle se décala alors vers la radio CB, s'en saisit et la porta jusqu'à son fauteuil, près de la cuisine. Là, elle marcha au mauvais endroit et ne put cette fois empêcher le plancher de la trahir. Merde ! Elle s'immobilisa un instant. Plantée avec sa radio à deux pas de son objectif, elle se rendit compte à quel point la présence de Sophie Henrichs la terrorisait. Lorsqu'elle fut installée, elle baissa le volume du haut-parleur au minimum et, l'œil rivé sur la porte de l'autre pièce, alluma l'appareil. L'aiguille des fréquences balaya le cadran, l'engin émit son léger crépitement. Recroquevillée sur elle-même, une main devant la bouche, comme pour atténuer encore plus le son de sa voix, elle lança son appel dans un murmure.
« Vera, vieil ours !»
Vera imagina le signal invisible se décrocher de l'antenne, affronter les chutes de neige, le vent, heurter les troncs de la forêt sur des kilomètres pour atteindre l'autre antenne dans l'autre chalet. Il était déjà arrivé que, dans de mauvaises conditions, ça ne fonctionne pas. Et ce soir, c'était mal parti car André ne répondait pas. « Vera a vieil ours !» répéta-t-elle en haussant le ton. Les secondes lui semblèrent interminables avant que, enfin, elle ne perçoive sa respiration, puis qu'il ne prenne la parole.
« Vieil ours à Vera ?»«
Parle tout bas !» répliqua-t-elle, soulagée. « Elle dort dans ma chambre. »
« J'attends depuis tout à l'heure. Je me laissais encore 30 minutes avant de te recontacter. Dis-moi que tout va bien. »«
Ouais, à peu près. Si je suis capable de discuter avec toi, c'est que je suis toujours en vie. Mais je dois reconnaître que la situation est particulière. 2 secondes, » fit-elle. Elle alla chercher son écharpe et la roula en boule contre le haut-parleur. Puis elle reprit le micro. « C'est bon, je suis là. Avant toute chose, tu serais pas venu par chez moi aujourd'hui par hasard. »
« Hein ? Bien sûr que non, pourquoi ?»«
Il y avait des traces de pas autour de mon chalet, grandes comme celles d'un homme. Quelqu'un a rôdé et a regardé par les fenêtres. » Un silence.
« C'est bizarre. Explique-moi, qui est cette femme ? Qu'est-ce qu'elle te veut ?»«
Elle s'appelle Sophie Henrichs, ou plutôt, c'est son pseudo. Elle ne veut pas me donner sa véritable identité. » C'est son livre que j'ai trouvé au hameau. Vera s'efforçait d'être concise et laissait du temps entre ses phrases pour s'assurer de ne pas réveiller sa visiteuse. Elle est romancière, mais c'est surtout l'une de mes anciennes patientes. Une schizophrène que j'ai traitée au début de ma carrière et dont je me souviens plus du nom. Elle est persuadée de ne pas être malade. Selon elle, je me serais trompée de diagnostic il y a 4 ans.
Merde.
Comme tu dis, je t'avoue que, entre ça et les empreintes, je ne suis pas du tout tranquille.
Sa schizophrénie, c'est quel genre ? Elle entend des voix ?
Elle croit deviner certains événements futurs. À l'écouter, elle est venue pour empêcher qu'un drame n'arrive.
Un drame te concernant ?
Oui.
D'accord. Alors tu vas faire extrêmement attention et éviter de fermer l'œil, ok ? Demain, si les conditions le permettent, je viendrai te voir à la première heure. On réglera ça et on la foutra dehors. Je me renseignerai aussi auprès des autres naufragés pour cette histoire de pas. Ils ne peuvent appartenir qu'à l'un d'entre eux. Peut-être que quelqu'un voulait te parler et que t'étais absente. Mais d'ici là, la nuit est encore longue. T'as un truc pour te défendre au cas où ?
Vera lorgna vers le poêle, frigorifié. Les lueurs rougeâtres esquissaient la forme des objets alentour. Les bouquins, les animaux sculptés, le tisonnier posé contre le mur à gauche du porte-manteau. Le hurlement du vent dans la toiture lui parut soudain lugubre, tout comme les bruits de craquement qui lui parvenaient de l'extérieur. Sans doute l'effet du poids de la neige sur les branches. Sans se l'expliquer, plus elle discutait avec André, plus son malaise grandissait. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» demanda-t-elle. Au bout d'un moment, il répondit.
« Tu sais que je suis très amie avec Christian Nolan, le colonel de la gendarmerie de la ville, et que je communique régulièrement avec lui par radio. On se connaît depuis des lustres. Je l'ai appelé tout à l'heure pour discuter et figure-toi qu'il m'a fait part d'une drôle d'affaire. »
Vera buvait ses paroles, avec cette impression d'écouter un récit effrayant à la Pierre Belmar.
« Dans les parages, il y a une seule auberge, celle des deux Grimm. Ta visiteuse y a dormi il y a 2 jours. Elle te cherchait. Elle a demandé au patron où se trouvaient ceux qui souffraient de la maladie des ondes et si le nom de Vera Claythorne leur parlait. Les deux Grimm ont répondu qu'ils ignoraient l'identité des hypersensibles, mais ils l'ont bien sûr orientée vers le hameau. A priori, elle a ensuite erré un bout de temps sur place, du côté de la boulangerie, et a même dû y passer une nuit avant de venir me voir le lendemain. »
Un reste de bûche crépita dans le poêle. Vera observa les braises. Ce soir, rien ne la réchaufferait.
« Je ne saisis pas ce qu'il y a d'alarmant dans ce que tu me racontes, » rétorqua-t-elle.
« Plusieurs choses. Ta panne de voiture, pour commencer. T'as jamais eu de pépin. Et comme par hasard, la bagnole ne démarre plus au moment où cet Henrich se déboule. »
« J'y ai songé. Mais elle me dit que c'est pas elle. Et j'aurais tendance à la croire. »
« Admettons. Mais le plus inquiétant,
poursuivit André,
c'est l'état dans lequel elle a rendu la chambre. Quand les deux Grimm sont entrés pour faire le ménage, ils ont constaté les dégâts. Elle avait mis en pièces le miroir de la salle de bain. Et surtout, à l'intérieur de la baignoire, sur les parois et dans le fond, elle avait tracé un immense labyrinthe avec un feutre noir.
Un labyrinthe ?
Ouais. D'après eux, ça a dû lui prendre des heures de faire ça. Dans le dédale, partout, elle avait dessiné des sapins. Et en son centre, une maison à côté de laquelle était notée en lettres majuscules « Refuge ». Il est évident qu'il s'agit de ton chalet, Vera.
Un silence de plomb accueillit ces révélations.
T'es toujours là ?
Oui, je t'écoute. C'est incroyable.
À mon avis, c'est plus flippant qu'incroyable. Les deux Grimm sont des gens tranquilles. Ils en ont parlé à Nolan pour qu'il vienne jeter un œil, mais ne veulent pas porter plainte. D'autant que le dessin est parti lorsqu'ils ont frotté et que le miroir était une vieillerie. Mais ta Sophie Henrich s'est tarée. Faut être complètement barge pour faire un truc pareil.
L'ancienne psychiatre réfléchissait. Le chalet au cœur d'un grand labyrinthe. Un refuge protégé par un ensemble de chemins destinés à perdre les visiteurs. « Je ne crois pas qu'elle me veuille du mal, » répliqua-t-elle tout bas. « Je pense plutôt qu'elle fuit quelque chose. »«
Qu'est-ce qu'elle fuirait ?»«
J'ai lu la première page du roman qu'elle est en train d'écrire. Elle se trimballe avec. Elle y évoque son excursion dans les bois pour échapper à un monstre qui la traque. Un monstre qui finit toujours par la retrouver où qu'elle aille. » Peut-être que ça explique les empreintes autour de mon chalet. Peut-être que, j'en sais rien, on l'a suivie jusqu'ici. Elle réfléchit encore. J'avoue que je suis un peu paumée, mais il est possible qu'il y ait aussi une dimension psychologique dans cette histoire. Le labyrinthe représente souvent, du point de vue symbolique, l'inconscient. Une zone de notre tête qui demeure mystérieuse, complexe et difficile d'accès. Comme le dédale, l'inconscient peut rendre fou et entraîner vers sa perte quiconque chercherait à en atteindre le centre. André sembla ruminer derrière son micro, apparemment pas très convaincu par ses hypothèses de psy.
Un roman dans son sac, tu dis. Ça explique la feuille que le vieux de Grimm a découverte sous le lit. Une page manuscrite, la 65. Le texte dessus fait une vingtaine de lignes. Visiblement une fin de chapitre. Elle a dû glisser d'un paquet sans qu'elle s'en aperçoive. Là encore, c'est un machin très, très bizarre.
Quel genre ?
Tu vas voir. Je voulais pouvoir te retranscrire tout ce que Christian Nolan me racontait, alors je l'ai enregistré avec mon magnétophone quand il me l'a lu. Un vieil appareil à cassette que j'ai sacrément bien fait de garder. Tends l'oreille, Vera. Je vais te faire écouter. C'est plus que troublant.